9 mai 2021, en cette journée de la fête des mères, on vous souhaite la bienvenue à notre édition du podcast La Relève, Anthony Desaulniers, Martin Thériault et Nicolas Cloutier. On est avec vous de façon hebdomadaire pour vous parler des prospects qui ont retenu notre attention. Mais premièrement, messieurs, avez-vous appelé votre maman aujourd'hui?
Oui, ben moi, je suis allé voir ma mère hier, en fait, à Granby. Je l'ai vu quelques minutes, donc c'est ça. Mais oubliez pas d'appeler votre mère.
Moi, j'ai pas ta chance, Nick. Ma mère demeure quand même à 12 heures de route d'ici, donc je l'ai appelé, j'ai lâché un petit coup de fil, mais c'est pas sans plus parce que 12 heures de route, c'est un petit peu long.
Parce que derrière chaque beau prospect, il y a une hockey mom sensationnelle. Hein?
Écoute, ah, ça c'est sûr, puis je serais bien curieux de voir la mère de Connor Bedard parce que honnêtement. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais ce kid-là est exceptionnel. C'est le cas de le dire. Là. Pour ceux qui ne savent pas, il a le statut de joueur exceptionnel dans la WHL. Mais il est vraiment phénoménal sur la glace. Et en finale, contre les Russes, dans cette victoire canadienne de 5-3, une première depuis 2013, Connor Bedard était dominant.
Ouais, écoute, le tir du revers qu'il a décoché, c'est un joueur qui se perd en le tir du revers et lui d'arriver, de faire cette manœuvre-là et de tout de suite enchaîner et d'envoyer ça dans la lucarne, c'était absolument fabuleux. Mais au-delà de tout ça, Connor Bedard, on l'a vu pendant tout le match. Et c'est là, je trouve, que ça illustrait bien la différence de style entre Bedard et Michkov parce que, et on a souvent parlé du parallèle entre Crosby et Ovechkin, pour faire la comparaison entre Bedard et Michkov. Et je trouvais que c'était accentué encore une fois durant cette finale-là parce que, bon, Michkov, c'était le marqueur qui se démarquait de façon sporadique, qu'on pouvait voir surgir d'une seconde à l'autre, même s'il ne bourdonnait pas nécessairement en zone offensive. Tandis que Bedard, lui, il était carrément partout, là. C'était le joueur complet du tournoi.
Mais ce qui est d'autant plus intéressant dans le cas de Connor Bedard, là, tu sais, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière de OK, la ronde préliminaire, c'est quelque chose d'intéressant pour être simplement capable de voir comment les espoirs tout simplement jouent, mais que les rondes éliminatoires allaient permettre de distinguer un peu qui est capable de fonctionner sous pression. Et clairement, Connor Bedard, là, on l'a vu contre la Russie en finale, il a aussi son jeu d'un cran. Il a été bon tout le long du tournoi, là, mais en finale, il a sorti encore plus fort. Sans dire que Shane Wright a mal paru, là, je pense qu'il a quand même été bon lors du match de la médaille d'or. Mais Connor Bedard, lui, ça a été deux ou trois coches plus hautes. Là. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui va être vraiment fascinant à voir dans les prochaines années. On le rappelle, là, 15 ans seulement, et déjà, il est capable de fonctionner à un haut rythme contre les meilleurs joueurs de moins de 18 ans de son âge. C'est vraiment fabuleux, honnêtement.
Je suis content que tu amènes le point, Marty, qui élève son jeu d'un cran, parce que le parallèle était frappant entre la demi-finale contre la Suède et la finale contre la Russie. À deux occasions, il a raté une chance de marquer dans ces deux matchs, et les deux fois, il est revenu pour marquer un but. Et justement, en finale, c'était sur un tir de pénalité, il n'a pas réussi à marquer, et ça a même pas pris 5 minutes plus tard, déjoue le défenseur en entrée de zone, tire du revers dans la partie supérieure. Donc ça, je pense que c'est un trait de caractère des grands joueurs qui sont capables de se lever, qui disent que je vais aller la mettre dedans, j'ai les attitudes et je vais aller le prouver à tout le monde que je vais le faire, je vais mettre l'équipe sur mes épaules, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et pour moi, Connor Bedard était le MVP de ce tournoi-là. Mais c'est Matvey Michkov qui a obtenu l'honneur. Est-ce que vous avez été surpris de cette décision?
Absolument pas. Statistiquement, de un, ça tenait la route. Et pendant l'ensemble du tournoi, on pourrait peut-être dire que ça a été le joueur le plus efficace, le meilleur joueur, OK. Mais le tournoi, il se gagne dans les moments importants et c'est là que Bedard a été le meilleur. Donc, Michkov pourra revenir et dire qu'il a eu ce titre, mais Bedard, lui, revient avec la médaille d'or. Donc, lui, je pense pas qu'il s'en formalise.
Ouais. Non, mais je suis pas surpris non plus. Puis c'est qu'il faut regarder comment se sont déroulés les matchs de la Russie. Lors du tour préliminaire, par exemple, Matvey Michkov a vraiment marqué des buts très importants. Contre l'Allemagne, il a quand même réussi à marquer 4 buts. Ça, c'est pas à négliger. Connor Bedard, et c'est là le fameux titre de joueur le plus utile du tournoi, si on veut. Si Connor Bedard ne joue pas avec le Canada, il y a quand même d'autres joueurs qui ont bien fait. Tu as Shane Wright, par exemple. Brandon Ottman a bien joué un bon tournoi. Dylan Gunter a bien joué. Il y a d'autres
joueurs.
McTavish, il y a plein d'autres joueurs qui pouvaient contribuer chez le Canada. Tandis que Michkov, c'était la principale arme offensive avec Shibrikov, qui était son ailier, là, mais son partenaire de trio. Là, Michkov est un ailier également. Mais tout ça pour dire que dans la catégorie de joueurs le plus utile, je pense que Michkov a davantage fait une différence pour la Russie. Et son fameux but derrière le filet là, à la Sinikrasi, je pense que ça marque l'imaginaire également.
Mais je veux revenir sur la fameuse séquence à laquelle Desoe a fait allusion. Quand Bédard a raté son tir de pénalité, est revenu au banc, il était en beau joual vert. Écoute, on a dit souvent que les recruteurs avaient hâte d'être dans les arénas pour voir étudier le langage verbal, le langage corporel d'un espoir, parce que c'est tellement important. Évidemment, on a pu le voir avec les images qu'on voyait à la télévision, mais j'ai tellement aimé ça, voir ça. Ça démontre à quel point il avait l'orgueil d'un compétiteur et ben carrément après il s'est rapidement repris là. J'ai vraiment vraiment aimé non seulement les habiletés dont il a fait montre, mais aussi son sens de la compétition à Connor Bédard.
Et ça s'ajoute seulement à son CV, on en parle depuis environ un mois les gars. Connor Bédard là, on rajoute joueur de 15 ans, joueur exceptionnel dans la Ligue junior de l'Ouest, est allé jouer en Suède dans la Ligue des moins de 20 ans pour être capable de se développer. Des Canadiens qui s'en vont jouer en Europe à 7 heures, et surtout à 15 ans, là, mais d'âge junior, si tu veux, c'est extrêmement rare. Lui a été prêt à faire ça pour le bien de sa carrière, pour être capable de se développer, parce qu'il n'y avait personne qui était capable de lui fournir des occasions de jouer. Lui, il n'a pas eu peur de le faire, contrairement à... Je ne lance pas la pierre à Shane Wright du tout, mais Shane Wright n'a pas pris cette décision-là. Ça montre seulement à quel point le gars a du caractère, qu'il est prêt à faire beaucoup d'efforts pour s'améliorer. Et là, par la suite, t'as le mondial des moins de 18 ans où il ressort justement au match le plus important du tournoi. Ben, c'est encore plus impressionnant. Tu peux cocher immédiatement super vedette. Et honnêtement, les gars, je ne sais pas si toi, Nick, ce que tu en penses, là, mais avoir cette prestation-là, voir comment il a fonctionné toute l'année, que ce soit dans la WHL ou dans les tournois internationaux, honnêtement, c'est peut-être le meilleur espoir qu'on a depuis Connor McDavid. Là. Puis je sais qu'il y a seulement 15 ans, mais c'est très, très, très prometteur, honnêtement.
Écoute, si on compare au même âge, il est certainement sur les traces de McDavid. Et là, c'est pas fair de dire ça parce qu'on s'entend, on part avec la prémisse que Bédard va pas devenir Connor McDavid. Il y a personne qui devient Connor McDavid pratiquement dans l'histoire. Là. Mais on pourrait même dire qu'il est en avance sur McDavid au même âge par rapport à ce que McDavid lui a fait à pareil âge. Mais c'est juste pour dire que Bédard... il t'envoie de devenir pas seulement une vedette ou une super vedette dans la ligue, mais vraiment un joueur dans une classe très sélecte parmi l'élite, là, le Elite Five, vous appelez ça ce que vous voulez, mais il y a un groupe de 4-5 joueurs dans la ligue qui sont pratiquement intouchables dans le NH et Bédard pourrait appartenir à ce groupe-là.
Mais on peut même aller plus loin. Moi, je pense que ça. Ben, tu l'as dit, là, comme McDavid est peut-être même en avance sur son âge. C'est un joueur générationnel. Tu en as un environ.
Oui, absolument.
Qui ressort. Tu as eu Sidney Crosby en 2005.
Exact.
Tu as eu Connor McDavid en 2015. Et là, ben, potentiellement, en 2023, il va avoir.
Et juste pour qu'on ait un petit benchmark dans les comparaisons, écoute, j'adorais Alexis Lafrenière et je pense que c'était un digne premier choix total. Et. C'était un bon premier choix total, même si tu le compares aux autres en camp. Historiquement, c'est un très bon premier choix total. Mais est-ce que j'étais prêt à dire qu'Alexis Lafrenière, c'était un choix, un espoir générationnel? Non, je n'étais pas prêt à franchir ce pas-là. Mais Bédard, on entre vraiment une coche au-dessus dans une autre classe de joueurs complètement. Là.
Pour les gens qui ne sont pas au courant, Connor Bédard a égalé une marque de Connor McDavid avec 14 points dans le tournoi pour un joueur de moins de 16 ans. Donc, McDavid avait fait pareil lors de son édition à lui. Pour sa part, Mishkov a terminé le tournoi avec 12 buts et 4 mentions d'aide pour 16 points. Et on parlait tantôt d'élever son jeu d'un cran. Mishkov a quand même donné le ton à cette partie en ramassant une rondelle libre dans le haut de l'enclave pour faire 1-0 pour les Russes. Et à ce moment-là, ça aurait pu ébranler le Canada, eux qui n'avaient pas tiré de l'arrière depuis le début de ce tournoi-là.
Et vous le savez comme moi, les gars, les tournois de moins de 18 ans, là, ça demeure quand même des jeunes qui n'ont pas nécessairement d'expérience pour protéger des avances ou pour tout simplement revenir de l'arrière ou peu importe. Ce que je veux seulement dire, les gars, c'est que ces tournois-là, puis pour le spectacle, c'est excellent parce que même si l'équipe pour laquelle tu prends mène 5 à 2, il n'y a rien de garanti. Tu peux mener après deux périodes et les Russes l'ont tellement montré souvent dans les matchs internationaux contre le Canada, là, ça, et c'est jamais, jamais terminé. Et c'est tellement formateur pour ces jeunes-là. Parce que lorsqu'ils vont se retrouver dans l'LNH, dans des situations comme ça, où on perd par deux buts ou qu'on mène par un but, ben, on va être capable davantage de faire fi de cette pression-là, si on veut.
Absolument.
Shane Wright terminé le tournoi pour sa part avec 14 points, 9 filets. Pour un joueur qui n'avait pas joué là, depuis plus d'un an, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Comme vous avez dit, il y avait du talent avec l'équipe canadienne, mais je pense que Bédard et Wright étaient vraiment les deux qui ont ressorti du lot. À quel point est-ce qu'on peut être fier et satisfait de ce que Shane Wright a accompli?
Écoute, je pense que Shane Wright a comblé les attentes qui étaient placées en lui. Oui, il y avait eu un long hiatus, on se demandait comment il... Mais je veux dire, c'est un gars qui avait une bonne préparation, c'est un gars qui s'était entraîné, je veux dire, c'est sûr qu'il allait être prêt pour le tournoi. Bon, maintenant, il a comblé les attentes. Moi, ce qui m'a surtout surpris, mais en fait, c'est pas vraiment une surprise, parce qu'on l'a vu beaucoup, mais c'est son tir. C'est un véritable laser, là, ce tir de Shane Wright. C'est ce qui va le permettre de s'illustrer. Ben, au-delà de l'ensemble de l'œuvre, là, on sait qu'il est bon dans toutes les facettes, mais je pense que sa marque de commerce à Shane Wright, si on avait vraiment le définir en tant que joueur, c'est ce tir, un véritable laser qui peut déjouer n'importe quel gardien, là, aussi techniquement impeccable soit-il.
Mais je pense que dans son cas, Shane Wright, il fallait quand même être posé un peu dans l'évaluation qu'on faisait, justement parce qu'il n'a pratiquement pas joué de l'année. Donc, s'il avait été ordinaire, il aurait quand même fallu se garder une petite gêne de dire « bon, il n'a quand même pas joué depuis un an ». Je vais prendre un exemple, là, Connor McDavid, au Mondial des moins de 20 ans, lorsqu'ils avaient gagné la médaille d'or à Montréal, à Toronto. Connor McDavid s'était blessé à une main, si je ne m'abuse, là, environ un mois avant le tournoi. Avait quand même pu disputer la ronde préliminaire, mais ça avait été très, très lent avant qu'il prenne ses aises parce que sa main n'était pas tout à fait remise. Je me souviens personnellement d'avoir regardé le match au Centre Bell avec un de mes amis et Connor McDavid... Tu voyais qu'il avait un excellent coup de patin, qui est un joueur absolument exceptionnel, mais tu voyais qu'il n'était pas à 100%. Parce qu'il n'était peut-être pas nécessairement autant de feintes. Et par la suite, il a pris son rythme. Dans le cas de Shane Wright, c'est un peu la même chose. Il fallait prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il allait apporter. Et c'est très, honnêtement, c'est encourageant, les gars, là, de le voir que... Parce que dès la première rencontre, je me souviens, Nick, tu nous as écrit, tu te dis Shane Wright, quel lancé vraiment incroyable.
Ouais.
Ça n'a pas pris de temps, il a vraiment été bon en partant. Et moi, j'avais surtout hâte de voir sa progression par rapport à l'an dernier. Et honnêtement, c'est mission accomplie. C'est tout à son honneur, honnêtement. Ça permet de voir que même si tu n'as pas joué nécessairement toute une année complète par rapport aux autres et que tu n'as peut-être pas eu les opportunités de te développer, que tu es quand même capable de franchir les échelons de d'autres façons, que ce soit en t'entraînant ou en te préparant au niveau mental.
Vois-tu, moi, je pense qu'on en apprend de plus en plus sur la science du hockey, la préparation, l'espèce de théorie d'être game shape, parce que quand on avait vu les équipes commencer à s'affronter dans la bulle l'été dernier dans la LNH, bien, on avait été surpris par le niveau de jeu, d'entrée de jeu. Il y avait plusieurs équipes qui n'avaient pas eu la chance de disputer des matchs préparatoires et tout de suite, il y avait des joueurs qui avaient été en mesure de passer de 0 à 100. Donc, je pense que c'est peut-être un interrupteur qu'on peut passer de off à on assez rapidement aussi, si on est dans une bonne forme physique.
Je vous rappelle que Shane Wright sera éligible au repêchage, mais pas de cette année, mais bien de l'année prochaine dans la Ligue nationale. Un qui a par contre très, très bien fait et qui sera éligible au prochain repêchage, je vais parler pour ma part, là, mais c'est vraiment un attaquant qui m'a impressionné, c'est Mason McTavish. Il est bon, il est gros, il est fort, il coupe vers le filet, il est capable de faire des moves en puissance, là, vraiment un attaquant de puissance. Ça a été un de mes coups de cœur, moi, de l'équipe canadienne, et c'est un des joueurs qui a monté dans mes listes.
Ben, écoute, c'est son sens du jeu, moi, qui m'a surpris. Oui, tu l'as dit, attaquant de puissance, sa carrure, etc. Mais je me rappelle de ce jeu durant la finale où il a glissé la rondelle entre deux défenseurs pour la refiler à Brendan Hartman, qui se dirigeait seul au filet. Écoute, j'ai vraiment, vraiment aimé sa façon de découper la glace et de lire le jeu sur la patinoire. Il avait vraiment une vue aérienne de la glace là, lorsqu'il avait la rondelle.
Et donc, ce jeu-là, particulièrement, c'est vraiment une brillante passe parce qu'il a franchi la ligne bleue, ce qui a fait en sorte que Hartman n'est pas tombé hors jeu. Il a ralenti pour que les deux défenseurs figent. Absolument. Il a remis du revers à la rondelle entre les deux joueurs. Et finalement, Hartman, c'était pas tant hot dog, là, c'était vraiment tenter de battre le gardien, mais a fait un move entre les jambes, alors que je pense qu'à ce moment-là, c'était 1-1 à la marque. Donc ça, c'était vraiment un brillant jeu.
L'espèce de manœuvre entre les jambes, là, ça devient de plus en plus instinctif au sein de cette jeune génération de joueurs. Souvent, nous, on va regarder ça, on n'a pas été habitués à voir ça, même que c'était parti d'une espèce de coup de fantaisie de Marek Malik, qui était un défenseur avec peu d'habileté à l'époque, mais de plus en plus, c'est normalisé. Les jeunes joueurs, pour eux, ça ne devient plus une manœuvre de fantaisie, mais simplement un moyen pour eux d'arriver à leur fin. Ils se disent « Ah, je suis dans telle position, je me regarde par rapport au gardien, c'est peut-être ma meilleure façon de positionner la rondelle dans le haut du filet ou de déjouer le gardien. Donc, je trouve que de plus en plus, j'aime l'audace de la jeune génération d'hockeyeurs et c'est pas pour faire fancy, c'est pas pour épater la galerie. Eux, ils voient vraiment ça comme une façon d'arriver à leur fin maintenant et j'aime vraiment ça, cette audace, cette créativité-là qui est normalisée dans tous les contextes professionnels.
Et je te donne la parole tout de suite après, Marty, mais je veux juste le souligner. Hartman a marqué entre les jambes en demi-finale contre la Suède.
Ouais.
Dans une façon un peu plus classique, là, posté juste à côté du filet pour ramener la rondelle et battre le gardien de façon latérale. Donc, il avait réussi le geste de façon statique, mais là, c'était vraiment en patinant dans une jambe d'échappée qu'il a tenté.
Et juste ajouter que Söderblom, l'espoir format géant des Red Wings de Détroit, avait marqué 2 buts de la sorte au championnat mondial junior plus tôt cette année. Là.
2 buts identiques.
Oui, exactement.
Il faut jouer moindrement au hockey puis se retrouver dans ces situations-là pour voir à quel point parfois, honnêtement, quand tu y penses sur le coup, là, j'ai pas le talent d'Alma Söderblom, pas du tout, là, mais je l'ai déjà tenté parce que ça devient l'option la plus facile et la plus rapide d'essayer de battre le gardien. Lorsque tu es à... Ben moi, je suis droitier, donc ça va être à gauche du filet davantage pour moi. Là. Mais si la rondelle se retrouve sur mon bâton et que je suis un peu dos gardien, ben... De faire un tour sur moi-même, le défenseur va probablement me contrer.
Ben, c'est ça.
Ou j'ai peut-être avantage à faire circuler la rondelle au défenseur. Tandis que si je glisse la rondelle entre mes jambes, ça devient une façon beaucoup plus rapide de marquer.
Le release est plus rapide. Tandis que là, tu as complètement à faire une rotation, ton tronc, tu dois tourner les hanches, tu dois te repositionner sur ton côté fort. D'un, justement, comme tu l'as dit, tu perds des précieuses secondes et tu n'en as pas des précieuses secondes en plein match. Le gardien a le temps de te voir venir, a le temps de se replacer. Tandis que là, ben, puis le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est surprendre le gardien avec un release qui est rapide, qui est vif comme l'éclair. Et c'est la meilleure façon, justement.
Mais par contre, il y a une façon, je pense que ce qui est bon dans le hockey, c'est d'être imprévisible. C'était un geste qui était imprévisible il y a quelques années. Maintenant, c'est un peu plus normalisé. Ouais. Est-ce que ça va un peu moins surprendre les gardiens à l'avenir? Si tous les joueurs font ça, un peu comme le move lacrosse, Sidney Crosby avait à peu près 25 secondes en arrière du filet pour mettre la rondelle sur sa palette. Maintenant, tout le monde le tente. Connor Bedard l'a justement tenté dans le tournoi. C'est pas trop long que le défenseur y arrive puis il donne des coups de bâton ou le gardien va venir bloquer avec son épaule le haut du filet parce qu'il le sait. Donc, je pense, oui, c'est une bonne manœuvre puis ça va surprendre le gardien, mais je pense qu'à l'inverse aussi, les gardiens vont s'habituer à ce genre de tentative.
Ouais, mais c'est pas tant une question de surprendre que ça devient le jeu le plus rapide. Comme je viens de dire,
c'est qu'un tir des poignets, là, comme dans toute autre situation. Là.
Mais c'est que si tu ne fais pas ce jeu-là, l'option numéro 2 ou numéro 3, ça va être de faire une passe ou de tourner sur toi-même et prendre un lancer plus puissant, si tu veux. Mais c'est que ça laisse le temps au défenseur de se glisser entre toi et le gardien, puis de te contrer plus facilement. Et finalement, ben, il n'y en a pas de jeu. Tu perds la rondelle. Je pense que c'est dans cette optique-là, et je pense que ce n'est pas nécessairement pour rien qu'on voit le jeu davantage se produire, et surtout chez les juniors, parce que les entraîneurs probablement les conditionnent à ces conditions-là toujours.
Ouais.
Je reviens à Brennan Hartman, parce que c'est la raison pour laquelle là, qu'on parle de la feinte entre les jambes. Autant le dernier podcast, je l'avais trouvé plus invisible. Je l'ai trouvé clairement plus visible, c'est une évidence. Là. Surtout encore et en finale. En demi-finale, jusqu'à temps qu'il marque, je l'ai trouvé plus discret. Je trouve que c'est un joueur qui, je ne sais pas si c'est parce que ça va être par séquence qu'il va être plus flashy à certains moments, à d'autres moments, il va être plus effacé. Mais vraiment, en finale, je l'ai trouvé très, très bon. Et je pense que ça va être un bon joueur dans la Ligue nationale. Mais clairement pas un top 10 là, dans mon livre à moi.
Ben, c'est parce que il faut en prendre et en laisser. T'sais, on dit un peu la même affaire au sujet de Caulfield avec l'équipe américaine dans un petit échantillon comme ça. C'est juste que tu arrives avec des équipes qui sont tellement talentueuses, tellement bien balancées, tellement équilibrées que un gars comme Brendan Hartman ne peut pas être le héros de chaque rencontre. Tu as beaucoup trop de talent qui s'illustre en même temps. Alors, Brendan Hartman n'a pas été un joueur que tu voyais chaque présence, chaque match, mais à un moment donné, c'est difficile. Tu as des gars comme Shane Wright, comme Connor Bedard qui accapare la rondelle, qui vole la vedette. Donc, je dirais que c'est un peu le même principe. Il faut faire tellement attention avant de tirer des conclusions, même surtout dans un tournoi, dans un petit échantillon comme ça.
Mais je suis curieux de t'entendre, Anthony. Qu'est-ce que tu as vu comme différence qui te déplaisait au début et qui finalement t'ont plu, rendant au match de la médaille d'or dans le cas de Brennan Hartman?
Ah, mais c'est clairement son implication. Je le trouvais plus rapide sur la rondelle, plus actif. Et je ne sais pas si parce que des fois, il restait plus en périphérie, je le trouvais plus effacé, tandis qu'en finale, Peut-être parce que c'est le genre de joueur qui est capable justement d'élever son jeu quand ça compte. Mais là, je le sentais qu'il voulait marquer, qu'il avait un désir de marquer. Et c'est pas nécessairement parce qu'il a produit. Si je me trompe pas, je pense qu'il n'y a même pas de points en finale. Donc, c'est vraiment parce que le joueur avait cette volonté-là de marquer des buts. Je veux pas dire n'importe quoi, là. Je vais vérifier pendant que je te lance la parole, Marty, là. Mais c'est vraiment pas pour son nombre de points. C'est pas sa fiche, là. C'est vraiment son implication dans le jeu que je trouvais qui était différente d'une partie à l'autre.
Ouais, Ottman, je ne l'ai pas noté, Ottman. Mais en tout cas, mais t'as pas tort. Puis Ottman, je pense que c'est un peu un reflet de... Moi, j'avais hâte de voir justement les grands matchs importants pour Brennan Ottman. Parce que moi, je l'ai vu regardant en Suisse et je trouvais qu'il avait un style un peu à la Brendan Gallagher de se retrouver devant le filet, d'aller déranger les gardiens adverses. Je trouvais qu'il avait cette tendance-là et je me disais, ça, c'est le genre de joueur qu'au match de la médaille d'or pourrait hausser son jeu d'un cran. J'avais hâte de voir ça et j'ai pas été surpris, j'ai pas été déçu non plus. Ça, ça en fait quelque chose d'intéressant parce que même si dans mes listes, il ne va pas nécessairement monter, je l'ai environ dans les alentours de 20e au total en ce moment. Mais lorsque tu arrives au repêchage et que tu hésites entre ton espoir numéro 20 ou le 21 ou le 22, ça se peut que ou le 18 ou le 17, peu importe. Mais s'il a été meilleur dans les moments importants que l'espoir au rang 17, bien, ça se peut que j'arrive pour sélectionner dans un repêchage et que je me dise, bien, finalement, je vais prendre Ottman parce que dans les moments importants, lui s'est présenté et pas le joueur que j'estime meilleur, mais qui ne sera peut-être pas meilleur dans les grands moments. Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans le cas d'Ottman dans ce tournoi-là. Là, il m'a beaucoup plu. Puis c'est ça, je pense que c'est par vague. C'est pas un joueur qui carbure avec tant de jeux offensifs. C'est peut-être pour ça que parfois, on sent qu'il est peut-être un peu plus effacé. Et de temps en temps, là, ça ressort. Et là, c'est là qu'on apprécie davantage. En tout cas. Ça, c'est mon hypothèse. Il faudrait que... On verra bien, mais en tout cas.
Alors, je me corrige, Brennan Ottman a marqué dans la finale le troisième but des Canadiens, mais encore une fois, je me répète, c'est pas nécessairement des buts ou des points qui m'intéressaient dans cette finale-là. C'est pas le fait qu'il a marqué, c'est vraiment son implication, je trouve, qui était différente. Et on l'a effleuré rapidement. Là, on est passé de McTavish rapidement à Ottman, mais permettez-moi d'y revenir. Là. McTavish, lui aussi, c'est un joueur qui ressort énormément du lot, mais on le dit, il a une bonne stature, c'est sûr que ça facilite les choses. Mais moi, c'est un joueur que j'ai adoré tout au long du tournoi, Mason McTavish. Oui.
Ah, c'était un des plus constants, assurément. Là.
Dans le cas de ces deux joueurs-là, ce qui est assez intéressant, puis c'est facile de savoir là, c'est qui le meilleur des deux. Là. Si quelqu'un met Ottman devant McTavish, je ne sais pas, il est sur quelle planète, parce que les deux joueurs jouaient dans la même équipe en Suisse. C'était pour le HC Alton. Donc, Ottman est débarqué en premier. Ça a été difficile au début. Puis par la suite, a trouvé son air d'aller. Puis justement, la grosse présence en début de match. Puis avait tendance à aller devant le gardien, d'être très intense. Les commentateurs en Suisse semblaient beaucoup aimer son jeu. Mais ça, c'était avant que McTavish débarque. Et aussitôt que McTavish est débarqué, mon Dieu, là, les... Et on s'entend en Suisse, le calibre de jeu est peut-être moins fort, là, mais ils étaient vraiment impressionnants. On commençait à comparer un peu à Austin Matthews en 2015-2016, sans dire que c'est le même joueur de joueur. Là. Mais on commençait à dire que c'était vraiment un joueur spécial qui se présentait, qui était de caractère lorsqu'il y a eu les séries. Il a été très, très bon également. Donc, la comparaison devient facile entre les deux. Là. Tu as vu McTavish, il a eu des meilleures statistiques, il est plus gros et il a peut-être impressionné davantage dans une liste, selon moi. C'est assez facile à... C'est
évident de savoir... Tu dis ça, Marty, mais je veux dire, Jack Quinn a été repêché devant Marco Rossi. Les deux jouaient dans la même équipe et on aurait dit que c'était impossible. Alors, au repêchage, tout le monde ment et on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Je t'aurais dit également que c'était fou, mais gars, je vais pas m'en plaindre. Là.
Ah non, mais ça, c'est clair.
Le nom d'une équipe peut repêcher celui que j'estime le meilleur. Mais en
je serais curieux de vous entendre. Qui, selon vous, va être repêché le plus haut entre McTavish et Gunter?
Gunter.
Ah, oh, Gunter, sans hésiter. Ouais, il y a davantage d'arsenal dans son jeu qui respire, qui peuvent lui permettre de devenir un joueur d'élite. Par rapport à McTavish. McTavish, je pense que ça va devenir davantage un joueur d'utilité qui est efficace par sa taille et par sa propension à protéger la rondelle et se rendre au filet. Mais Gunter, il a des aptitudes qui peuvent le destiner à devenir une vedette là, vraiment dans la
ligue. Puis je le trouve super bon, Gunter, je le trouve talentueux, mais c'est drôle. Hein, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas que je le trouvais spectaculaire ou flashy vraiment, c'est qu'il est tellement efficace C'est incroyable. Tous les petits détails, les accomplissait. Il savait tout le temps où se positionner, comment marquer un but. Mais j'allais pas ouvrir mon téléviseur pour aller voir jouer Dylan Gunter. Mais si je suis un DG, j'adore avoir Gunter dans mon équipe.
Ah, je suis 100% d'accord avec vous. Moi aussi, Gunter, honnêtement, dans ma tête à moi, il va être top 3 au prochain repêchage. Il est fluide, c'est facile ce qu'il fait. Quand il a la rondelle, il ne semble jamais mal positionné. Exact. Il semble toujours avoir des options. C'est un joueur qui est brillant sur la glace, a une bonne vision de jeu. Puis, contrairement à des joueurs qui parfois vont avoir seulement, mettons, un tir, ça va être 100% ça leur game, ça va être leur tir, d'autres, ça va être l'échec avant. On aurait dit Gunter, lui, sa game, c'est que ça a l'air facile. Puis là, je ne vais pas faire une mauvaise comparaison parce que Carey Price est un gardien, là, mais Carey Price, on dit souvent ça de lui. Il fait des arrêts qui ont toujours l'air faciles. Ouais, c'est parce qu'il y a une bonne technique. Mais Gunter, ben, c'est l'impression que ça me donne. C'est un joueur qui a assimilé les bases et qui a une excellente technique. C'est pas le plus flashy, le plus spectaculaire, mais tu sais ce qu'il va te donner quand il est sur la patinoire. Il te mettra rarement dans le pétrin.
Exactement.
Mais il est pas spectaculaire parce que, pour la simple et bonne raison, qu'il ne garde pas la rondelle sur son bâton longtemps.
Ben oui, et oui, c'est donc, ça. Il manipule pas la rondelle. Il va pas aller déjouer deux, trois joueurs pour se faire de l'espace. C'est plus un gars qui va faire du give and go, qui va utiliser ses coéquipiers pour aller attaquer des espaces, là.
Puis là, vous l'avez pas nécessairement vu au Mondial des moins de 18 ans. Vous dites qu'il est pas nécessairement spectaculaire, là. Mais regardez des matchs qu'il a joué à Edmonton dans la WHL et allez voir son lancer sur réception en avantage numérique. C'est assez quelque chose. Honnêtement, au niveau du lancer, probablement dans le repêchage 2021, c'est probablement lui qui a le meilleur lancer. Et c'est probablement... Là, j'ai fait une drôle de face, si tu veux, lorsque j'ai entendu dire « Espoir top 3 ». En même temps, je suis retourné voir mes notes et Bob McKenzie, lui, dans sa liste, là, deuxième. Probablement pour ces raisons-là.
Ben, écoute, il y a des experts très réputés qui, pendant la saison, l'avaient premier aussi, là.
Ben, exact. Puis même, je vais parler pour moi. Moi, personnellement, après l'avoir joué une première fois, je l'avais promis. Là, par la suite, j'ai vu d'autres choses sur Owen Power, sur Ken Johnson, que j'aime beaucoup, sur Brent Clark, qui m'ont peut-être laissé dire, OK, je pense qu'eux ont peut-être un potentiel de vedette peut-être un peu plus grand que Gunter, mais ça enlève rien qu'il y a d'excellentes qualités, il y a d'excellentes mains. C'est un joueur qui est justement très efficace, des décisions rapides, instinctives qui font le travail et son lancer en avantage numérique, comme je viens de le dire, c'est probablement le meilleur, là, honnêtement, de ce repêchage.
Mm-hmm.
Parlons-en, Marty, de Brent Clark, parce que je le sais, là, la semaine dernière, là, on était super emballés sur Brent Clark, puis j'enlève rien. Il est bon, il est efficace, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose parce que il me semble qu'il faut être plus que juste bon ou juste efficace pour être repêché premier au total, comme tu sembles prétendre. Moi, personnellement, Brent Clark, il me laisse un petit peu sur mon appétit. J'ai un petit peu de misère à le placer aussi haut. Je trouve qu'il y a une petite coche encore que j'aimerais voir de plus dans son jeu.
Mais je pense que c'est le thème du repêchage 2021. Peut-être que Nick peut me confirmer, là. Mais c'est ça la thématique du repêchage 2021.
Ouais.
T'as eu Rasmus Dahlin qui était le premier au total incontesté. T'as eu Jack Hughes qui c'était le cas. T'as eu Alexis Lafrenière l'an dernier. Austin Matthews, Connor McDavid. Nommez-les, là.
Ça fait tous longtemps ces qu'on a eu un débat, exact. Ouais.
Mais là, c'est peut-être le premier repêchage depuis peut-être 2014. Où là,
Nico Hischian, Nolan Patrick, peut-être?
Non, il n'y en avait pas vraiment eu de débat à la fin parce que non. Patrick avait été décevant, il avait eu plusieurs blessures, ça a inquiété les recruteurs. Hischian, avec son championnat mondial, il s'était vraiment hissé comme clair numéro un, je pense. Et souvent, ce qui arrivait, c'est que lors des autres QV avant, ben c'est souvent pas juste les médias, mais il y a même des équipes de la LNH qui aiment ça, brouiller les cartes pour créer une espèce de conversation, jouer un peu au poker. Et même la Ligue, ça lui sert bien là, de vendre l'idée qu'il y a une compétition pour le premier rang. Mais souvent, il n'en était rien. Dans les dernières années, ça, il n'y a jamais eu de débat vraiment. Alors là, c'est spécial parce qu'il y a un débat. Et souvent, quand il y a un débat, c'est parce que la plus haute portion du repêchage ben, est peut-être plus faible que les autres années. Parce que quand c'est incontesté que tel gars va être un premier, tel gars va être deuxième, tel gars va être troisième, mais c'est parce qu'ils ne laissent aucune place à l'hésitation parce qu'ils sont bons à ce point. Alors là, oui, je veux dire, ça rend les choses intéressantes, mais ça nous dit peut-être aussi qu'on a un repêchage qui n'est pas un mauvais repêchage. En pensant, je ne dirais pas à dire que c'est un mauvais repêchage, mais par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières années, là, c'était assez relevé, là, mais on est peut-être une petite coche en dessous. Là.
J'avais parlé avec Alex Chenier qui se prépare pour le repêchage de la LNH pour la chaîne TVA Sport. Puis, il semblait d'accord avec moi là, de dire, c'est pas un, comme tu viens de le dire, Nick, c'est pas un repêchage qui est atroce. Là.
Mm-hmm.
Il y a de bons espoirs, mais il n'y a tout simplement pas de, à première vue, de joueurs qui vont devenir de super. Il va peut-être en avoir, là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qu'on voit devenir une super vedette, assurément. Et c'est là, je pense, c'est pour ça peut-être le questionnement par rapport à Brent Clark. Moi, je le vois premier, mais c'est vrai que si tu le regardes jouer, tu te dis, voyons, est-ce que c'est vraiment un joueur de concession, hors de tout doute, à le voir jouer? Je vais être honnête avec toi, même moi, j'ai des doutes. Je vous dis qu'il est premier dans ma liste pour l'instant. Il n'y a rien qui me dit pas qu'en force de réfléchir à un moment donné chez nous, à regarder mes listes, peut-être que je vais dire à un moment donné, sais-tu quoi, j'aime mieux Owen Power finalement. Il y a plus de risques, il a joué peut-être dans un meilleur calibre de jeu durant la saison. Je vais peut-être trancher, je vous le dis, honnêtement, les gars, l'écart entre Clark et Power est assez mince, puis je me gratte souvent la tête à me dire qui c'est qui va être le premier au final. Mais c'est vraiment ça qui est difficile cette année. Tu as peut-être 7 ou 8 joueurs, là. Il y en a qui ont des qualités, il y en a d'autres qui ont des défauts. Puis là, par la suite, ça devient une question de préférence.
Mais sais-tu quoi, Marty, puis on en avait parlé, puis tu m'avais demandé mon avis sur le coup de patin de Brent Clark. Puis depuis que tu m'en as parlé, tu sais, ça a commencé à me trotter dans la tête. J'y ai réfléchi et j'y ai porté attention lors des matchs suivants. Mais honnêtement, là, je veux dire, c'est surfait, là, les espèces d'inquiétudes autour du coup de patin de Brent Clark. C'est ridicule, même que j'ai vu une agilité impressionnante là, d'un déplacement dans les pivots par moment. On peut passer à une autre question parce que non, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le coup de patin de Brent Clark.
C'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a une séquence qui circule sur Twitter, si je ne me trompe pas. Là. Il y a une séquence, puis là, la personne qui l'a publié écrivait justement ça. Voici une séquence pour tous ceux qui disent que Brent Clark n'a pas de coup de patin. Il prend la rondelle à partir de sa zone, transporte ça d'un bout à l'autre, puis ça donne une chance de marquer. Il a peut-être déjoué 3 ou 4 choix.
Ouais.
C'est un peu drôle. Je pense que c'est peut-être l'explosion qui manque. Je pense que des fois, les gens se mêlent à travers ça. On dit,
ouais, mais pour un défenseur, l'explosion, là, c'est pas un deal breaker. Si tu me disais c'est un ailier, c'est un joueur de centre, OK, là, on a peut-être un problème, mais il va être quand même capable de supporter une poussée offensive. Là, je veux dire, il n'y a pas besoin de créer une séparation énorme avec les autres joueurs si c'est un défenseur. Là.
Non, exactement, t'as raison.
J'amène peut-être une piste de réflexion pour justifier le fait que cette année, c'est un peu plus serré au sommet du repêchage. C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs joueurs qui n'auront pas joué, plusieurs ligues qui auront été restreintes en raison de la COVID. Peut-être que ça fait en sorte que les repêcheurs, les recruteurs auront moins d'outils à leur disposition pour se faire une tête. C'est peut-être ça qui explique en fait que l'écart est si petit entre les 8 premiers joueurs là, pressentis pour être repêchés au premier rang.
C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Mais je veux dire, désolé, je comprends ton point, mais si on avait un Connor Bedard dans cette QV-là, il n'y aurait quand même pas de débat à avoir. Là. Et on voit quand même très bien quand il y a un joueur qui se détache vraiment du lot. Quand même bien qu'on ait juste du matériel vidéo, là, on est capable de le voir à ce moment-là. Là où ça devient plus délicat, je te dirais, c'est quand on hésite entre deux joueurs. C'est là peut-être qu'on regrette de pas avoir pu assister à plus de matchs en personne. C'est parce que le recruteur doit fournir des arguments à son recruteur en chef. Et quand tu vas au bat pour un joueur, ben, tu mets ta crédibilité en jeu. Alors quand il y a les espèces, puis c'est surtout pour les équipes, quand il y a des espèces d'échanges et on va être sûr de prendre le bon. Et tu as deux joueurs qui sont vraiment kiff-kiff dans ta liste et tu sais vraiment pas sur quel argument te baser pour favoriser l'un, favoriser l'autre. Ben, tu aurais aimé ça, avoir le petit échantillon en personne là, pour te donner plus d'informations.
Mais je suis tendance à être assez d'accord avec Nick, là, surtout par rapport à au fait qu'on n'a peut-être pas pu voir jouer les joueurs assez. Puis l'autre aspect, c'est que je regarde les joueurs qui sont classés environ top 10. Là. Ils ont tous été capables de jouer un petit peu de minutes de jeu. Là. Matthew Beniers, il a quand même joué sa saison NCAA à Michigan. Même chose pour Owen Power et Ken Johnson, qui étaient ses coéquipiers. Gunter a quand même eu la chance de jouer 30 rencontres.
Luke Hughes
a eu l'occasion de jouer une saison au complet. Lui, c'est très dommage parce que j'aurais aimé le voir là, pour le comparer par rapport à Edvinson dans un bon vieux match Suède-États-Unis. Mais bon, c'est les choses étant ce qu'elles sont, il s'est blessé. C'est assez malheureux. Là. J'ai pas tendance à penser que le manque de match fait une différence pour le top 10. Je pense que ça fait une plus grosse différence pour le... quelque part entre le 25e rang et le 3e tour, tu sais, c'est là que ça fait une énorme différence.
Ben, Marty, la pépite là, de 7e tour là, qui aurait pu se faire remarquer dans la OHL aussi, là, c'est elle qui est cup au final.
Ben non, mais t'as tellement raison. Puis là, je sais qu'on organise un match, un genre de showcase, si tu veux, du côté d'Erie en Pennsylvanie. Erie qui a une équipe de la OHL. On veut inviter non seulement les espoirs admissibles au repêchage de la OHL, on veut inviter également les joueurs de 18 et 19 ans. Tu as tellement raison, Nick, parce que ces joueurs-là, il y en a peut-être un qui s'est développé en 2 ans, qu'on n'a aucune idée, qui a pris une petite croissance incroyable, qui a compris quelque chose, qui a développé un atout avec son talent. Puis là, on ne l'a pas vu parce qu'il n'y a pas eu de saison. Là, peut-être qu'avec 10, 15 ou 20 rencontres, là, il l'aurait impressionné, il l'aurait fait comme un... L'exemple que j'ai en tête, c'est Brett Leeson, là, qui a été repêché par les Capitals et qui a fait partie d'équipe Canada Junior, mais à 19 ans. Et c'est un joueur assez marginal à 17 ans.
Ah oui, absolument. Je me rappelle.
15 ou 20 points.
Marty, ton micro griche. Je ne sais pas si tu peux essayer de te reconnecter sur le podcast. Et pendant ce temps-là, on va poursuivre la discussion sur un autre joueur. Depuis le début là, du podcast, on parle de joueurs majoritairement premier tour. Je pense que ça fait pas mal l'unanimité. Là, ce seront des joueurs qui seront repêchés assez haut. Si j'avais peut-être un genre de quatrième étoile, de joueur obscur un peu, mais qui a vraiment tiré son épingle du jeu dans les rencontres de l'équipe canadienne, c'est Chase Tillman. Petit attaquant, mais avec tellement de cœur, tellement de fougue. Le gars se démarquait énormément par son échec avant, par ses coups d'épaule. Tu sais, Chase Tillman, c'est pas le gars qui a le plus d'habileté offensive. C'est pas quelqu'un qui va marquer 30 buts dans la Ligue nationale. Mais c'est quelqu'un que tu veux avoir dans ton équipe parce qu'il va t'amener de l'énergie. Et moi, personnellement, Chase Tillman, ça a été mon dark horses. Ça a été vraiment ma quatrième étoile là, de l'équipe canadienne. J'ai adoré ce qu'il a apporté sur la patinoire.
J'ai pas haï. Je te dirais que moi ma quatrième étoile, ça a été plus Stankoven. Mais je te rejoins là-dessus. J'ai aimé son implication, j'ai aimé son intensité.
Mais Chase Tillman, s'il avait moindrement de talent, là, ce serait un joueur, ce serait un espoir top 15, top 20. Et le premier match que j'ai vu de lui, les gars, c'était... C'était dans le match préparatoire face à la Finlande. Je vous le dis, là, il y a au moins 3 ou 4 mises en échec très percutantes. Ça n'aurait pas été compliqué de trouver la mise en échec fixe auto. Je vous le confirme. Là. Ça aurait été... il était spectaculaire. Puis moi, je vais être honnête avec vous. Personnellement, j'aime les joueurs qui frappent, qui ont du caractère et qui dérangent l'adversaire.
Pourtant, tu n'as pas aimé beaucoup Nolan Allen, Marty. Là.
Et c'est lui qui aurait dû remporter la mise en échec fixato, Marty.
Nolan Allen était sans doute un candidat très plausible. Ça c'est ouais. Sûr. Mais tu parles de Nolan Allen. Par contre, j'aime un jeu offensif, mais je ne veux pas que ce soit une nuisance dans les autres aspects du jeu également. Et c'est pour ça que Tillman, malheureusement, au niveau offensif, j'en attends davantage. Il n'apporte pas nécessairement beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait en sorte.
Ben, il n'apporte rien. Offensivement, il apporte absolument rien ou presque.
C'est le genre de joueur que tu vas peut-être repêcher plus tardivement dans le repêchage parce que tu te dis, s'il développe son côté offensif, ben, on a peut-être un joueur entre les mains. Alors, tu prends une chance et tu te dis, ah, ben, ne sait-on jamais. Hein.
Ouais, mais c'est ce genre de joueur-là qu'il faut que tu le prennes à part puis tu le retiennes un petit peu parce que lui, il va toujours y aller la pédale au plancher, il ne va pas se poser de questions. Premier match de la finale de la Coupe Stanley, match de mi-novembre contre un adversaire dans l'Ouest alors que tu es une équipe de la métropolitaine. Lui, ça va toujours être en 5e vitesse. Et c'est le genre de joueur qui va faire en sorte que ton équipe va élever son jeu d'un cran de façon collective parce que lui va vraiment montrer l'exemple. Donc, c'est sûr que si tu le repêches pour jouer sur ton top 6, ben là, tu passes à côté de la traque. Mais si tu le repêches pour jouer sur tes trios d'énergie, moi, j'adore Chase Tillman. J'ai vraiment aimé ce qu'il a montré. Malgré que dans le tournoi, il a obtenu 2 buts, 2 passes. Il n'est pas là pour sa game offensive, ça, c'est évident.
Mais je veux quand même rebondir sur ce que tu dis parce que souvent, tu peux repêcher un joueur d'énergie et ton identité n'est pas immuable, hein, n'est pas coulée dans le béton quand tu vas être repêché. Tu peux te développer et devenir un joueur à un talent offensif insoupçonné. J'aime pas ça quand les équipes repêchent un joueur et se disent « OK, ben là, toi, tu es prédestiné à jouer sur notre quatrième trio » parce qu'après, tu lui enlèves tellement de possibilités. Tous les joueurs se développent à leur rythme, que ce soit du point de vue offensif, du point de vue défensif. Brendan Gallagher, je sais qu'il marquait beaucoup de buts dans la Ligue de l'Ouest quand il a été été repêché. Jamais on se serait douté qu'il en aurait marqué autant dans la LNH, mais il s'est développé, il a trouvé des moyens, il a trouvé des solutions. Milan Lucic, je veux dire, c'était un grinder avec pratiquement aucun talent quand il a été repêché par les Bruins de Boston. Alors, je pense qu'il faut quand même garder l'esprit ouvert avec ces joueurs-là. Oui, tu les repêches et tu leur conseilles de développer leur habileté offensive avec, mettons, un Darryl Belfry, un entraîneur d'habileté, un entraîneur du coup de patin, quoi que ce soit, parce que tu veux vraiment pas que ces gars-là aient des œillères et se disent que pendant toute leur vie, ils vont devoir aller faire du forecheck dans le fond de la zone. Il faut qu'ils décident de diversifier leur jeu.
Mais vous savez ce qui peut être prometteur dans le cas de Chase Steelman? C'est justement que c'est un Steelman. Son père, c'est Corey Steelman, l'ancien vétéran de la LNH, et son frère Riley joue présentement pour les Blackhawks de Chicago. Ça fait quelque chose d'intéressant parce que là, eux ont goûté au rang professionnel, savent qu'est-ce que ça prend pour s'y rendre. Et probablement que Riley Steelman, Riley, c'est le frère, mais probablement que Chase a déjà côtoyé non seulement son père dans les vestiaires, mais les coéquipiers de son père également, sait qu'est-ce que ça prend au niveau de l'attitude. Je suis pas en train de dire, au premier tour, je ne le prendrai pas parce que je pense pas qu'il y a les qualités offensives pour devenir un joueur de premier plan, mais par la suite, je le mentionne souvent, les gars, ça prend une qualité exceptionnelle pour être capable de jouer dans la LNH et lui, clairement, c'est son jeu physique et d'autant plus qu'un jeu physique, ça te permet parfois de réveiller ton équipe lorsqu'ils connaissent un match difficile. Moi, c'est pourquoi j'aime les joueurs qui sont assez physiques et qui ont du caractère lorsqu'ils sont capables de ne pas être une nuisance à d'autres endroits comme le bon Nolan Allen.
La question de la semaine provient de Samuel. On vous remercie là à la maison. Continuez de nous envoyer vos questions autant sur notre page YouTube ou encore sur notre page Facebook Podcast La Relève. Les boys, qu'est-ce que vous pensez de Olin Zellweger, défenseur canadien?
Bien, vous parliez de votre quatrième étoile chez le Canada. Moi, c'est Olin Zellweger. J'adore Olin Zellweger et je vous le dis tout de suite, les gars, j'ai pas encore acheté mes listes, là. Je vais probablement le mettre dans mon premier tour. Il ne va pas sortir nécessairement premier tour, mais dans mes 32 premiers, il est assurément là. J'ai adoré son jeu offensif, un petit défenseur, mais qui bouge super bien la rondelle, puis qui est surtout très intelligent. Trouve les bonnes options, trouve les bons joueurs au bon endroit. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu les statistiques offensives.
Un but, 7 passes en 7 parties.
Exact, il a eu 8 points. Si je ne m'abuse, ça a été à l'égalité avec Carson Coolman comme meilleur défenseur chez les points chez le Canada. Et vraiment impressionnant là-dessus. Et là, c'est dans le cas des petits défenseurs à caractère offensif, souvent, les critiques, c'est le jeu défensif. Mm-hmm. J'ai tenté de surveiller ça davantage lors des dernières rencontres pour voir est-ce que ça peut devenir une lacune au niveau professionnel. Puis honnêtement, les gars, il se débrouille super bien défensivement. Là. Il ne se fait pas prendre à contre-pied, très intelligent, parvient à éviter la pression puis relancer l'attaque. Honnêtement, Owen Zellweger, je vous le dis, ça pourrait potentiellement être un défenseur de premier plan dans l'LNH qui va être capable de piloter un avantage numérique.
Mais moi aussi, je l'ai aimé, Zellweger, parce que c'est pas quelqu'un qui se met dans le trouble, c'est quelqu'un qui limite les revirements. Puis je pense que ça, c'est la qualité première d'un défenseur. C'est bien beau d'appuyer l'attaque puis de générer, mais si en contrepartie, tu es moins 20, puis toutes les fois que tu es sur la patinoire, ton équipe encaisse des chances de marquer, je pense que tu passes à côté de la traque. Lui, on le voit peut-être moins par certains moments, mais il ne fait pas d'erreur ou presque. Et ça, je pense que c'est vraiment bien. Puis c'est ce qui l'a démarqué là, dans le tournoi.
Ça va paraître drôle à dire, là, mais j'ai l'impression que chez le Canada, c'est sûr que le Canada en défense était moins fort qu'à l'attaque. Là. J'ai l'impression que c'était le meilleur défenseur défensif. Parce qu'il n'y avait pas de défenseur à caractère qui se démarquait par sa défense dans le tournoi. Et ça devenait par défaut un peu Olin Zellweger qui devenait le meilleur. Selon moi, là, c'était lui le meilleur défensivement.
Potentiellement un des meilleurs défenseurs du tournoi chez les Suédois, Simon Edvinsson. Autant ça l'avait été extrêmement difficile dans la première partie contre le Canada dans la rencontre de 12-1, il avait été exposé. Il a été vraiment bon en demi-finale. Moi, je l'ai trouvé hyper efficace, repli défensif, protège bien la rondelle, se sort de la zone, évite la pression, fait des jeux intelligents. J'avais de la misère à comprendre pourquoi les gens le mettaient aussi haut dans leur liste lors de la première rencontre, mais là, en demi-finale canadienne, là, il a vraiment été impressionnant.
Ouais, j'avais enregistré quelques matchs à Suède, là, mais j'ai regardé en avance rapide un peu pour voir quelques séquences en isolé de Edvinson. Puis j'avais été assez dur envers Edvinson il y a une semaine. Donc, j'aimerais quand même souligner là, que, comme tu as dit des autres, il s'est bien repris. Et c'est là qu'on voit les qualités qui ressortaient, les qualités qui faisaient en sorte qu'on le voyait aussi haut dans les listes. Ben, écoutez, c'est cette combinaison-là de mobilité, de fluidité qui arrive avec son gabarit qui le rend très intéressant. Et il y a un bon flair offensif, il y a un bon processeur offensif, Edvinson. C'est pas, comme on l'a dit, c'est pas Philippe Broberg, c'est pas juste un gars qui va se distancer des joueurs avec son super coup de patin pour se créer de l'espace, arriver devant le filet ou se démarquer. C'est vraiment un gars qui a un bon hockey IQ et qui peut se démarquer de cette façon-là.
Il y a un aspect où je compare pas le joueur, là, mais il y a un aspect de son jeu qui me fait penser un peu à Rasmus Ristolainen lorsqu'il était dans les
rangs. Je ne sais pas si c'est très bon signe parce que je ne tiens pas nécessairement à haute estime Rasmus Ristolainen.
Mais il est meilleur en défense que Rasmus Ristolainen, bon. Mais je parle davantage au niveau offensif, comment attaquer. Moi, j'ai mémoire de Rasmus Ristolainen au Mondial Junior. Là.
Oh, il avait été excellent. Il avait été excellent.
Je pense qu'il avait marqué le but de la médaille d'or pour la Finlande, si je ne me trompe pas.
Oui.
Mais mon point, c'est que tu regardes parfois sans connaître les gars, puis seulement regarder, sans trop tenter d'identifier qui est qui, si tu veux. Ristolainen semblait parfois comme être un attaquant, si tu veux. Il était en zone adverse, puis se retrouvait devant le filet, mais plutôt que de revenir immédiatement à sa position, comme certains défenseurs le font, Ristolainen avait tendance à demeurer devant le filet. Et Edvinson, par moment, il y a des séquences que je l'ai vu faire ça. Je le voyais, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il demeure à sa position? Puis,
ah, ça, c'est la beauté du, on appelle ça de plus en plus positionless hockey avec le F1, F2, F3. Mais ben, maintenant, on le sait dans les systèmes, dès qu'un défenseur va appuyer l'attaque, il y a l'attaquant qui est le plus haut dans la zone, c'est lui qui est censé couvrir ses arrières, donc c'est lui qui va reculer. Mais à ce moment-là, l'attaquant ne va jamais reculer parce qu'il va voir que ben, carrément le défenseur a décidé de prendre sa position. Hein. Fait que tout ce temps-là qu'il passe dans le fond du territoire à forechecker, à être dans le filet, à essayer de se démarquer, à être dans l'enclave, ben c'est du temps que l'attaquant, lui, il fait du patin arrière, puis il doit couvrir ses arrières. Alors, c'est sûr que c'est intéressant, et de plus en plus, on voit ça, mais lui, il va pousser ça à un autre niveau, parce que, tu sais, souvent, les défenseurs vont faire une incursion de quoi, à 10-15 secondes, vont retourner, parce que, tu sais, je sais que c'est stupide, les gars, mais c'est pas tous les attaquants qui peuvent patiner en arrière de façon hyper fluide, hein. C'est pas tous les attaquants qui le pratiquent, parce qu'ils n'ont pas à le faire souvent durant un match de hockey. Okay. Alors, souvent, c'est ça. C'est des petites incursions, mais lui, il pousse la note un peu.
Je dirais même qu'il y a certains défenseurs qui ont de la difficulté au niveau du recrutement. Je vais reprendre Alain Chéné, son anecdote sur Kevin Shattenkirk à son année de repêchage.
Ouais.
C'est un bon exemple.
Ouais.
Mais Marty, je te pose la question, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose que Edvinson se porte autant à l'attaque et qu'il demeure en attaque? Si son équipe est au courant, si le système de jeu est bâti de cette façon-là, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment un négatif?
Mais moi, je vais t'en être avec toi, de la façon qu'il attaque. J'ai parlé de Brent Clark qui est capable de transporter l'attaque. Brent Clark, ça ne me fait pas peur parce que je trouve qu'il ne se met pas à risque. Mais Edvinson, c'est que le fait de demeurer... Souvent, quand tu attaques comme défenseur, c'est que tu vas te dépêcher à revenir dans ta zone.
Ben oui, c'est
mais,
ça.
Mais lui, il demeure sur place et il n'y a pas nécessairement un attaquant qui prend sa place parce qu'il va s'attendre à ce qu'Edvinson retourne en arrière. Tout ça pour dire que son sens du jeu a tendance à me déranger. Puis, je ne pourrais pas dire exactement la chose précise sur laquelle... Mais il y a quelque chose qui me chicoche.
Ben, il y a un sens du jeu. Son sens du jeu est offensif. À ce moment-là, est-ce qu'il est abusivement offensif? Là, on peut en parler. Mais ce que j'aime de lui, c'est quand même qu'il y a des intentions, il y a des ambitions offensives et il est porté vers l'attaque. Là. Il va penser en fonction de l'offensive. Mais il y a des défenseurs qui, à un plus bas niveau, vont récolter des points seulement parce qu'ils sont plus rapides, seulement parce qu'ils sont plus costauds, seulement parce qu'ils ont un tir qui est plus pesant. Mais moi, j'aime ça, voir un défenseur qui utilise son cerveau pour générer de l'attaque. Au moins, Edvinson le fait, là.
Moi, honnêtement, ça me fait pas peur parce qu'il a les habiletés. Le point dans sa carrière future, il devrait être bien dirigé. Ça va prendre un entraîneur qui lui explique ce qu'il attend de lui et ce qu'il veut pas faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et je pense que Edvinson, s'il est capable d'être dans une structure qui est bien en place, il n'y en aura pas de problème. Et si les attaquants sont au courant qu'ils se portent à l'attaque et se replient, je pense que ça va aller. Mais je vais juste prendre le temps de brancher mon ordinateur parce que sinon, je vais perdre la connexion. Mais Edvinson, honnêtement, moi, je l'ai trouvé bon. Puis je pense que ça va être un excellent joueur dans la Ligue nationale. Je serais pas prêt à en dire autant nécessairement de Fabian Liesel. Pas qu'il n'a pas été bon, mais lui, il y a des choses qui me dérangent dans son jeu. C'est un joueur qui est électrisant, c'est un joueur qui a des habiletés, il a un très bon tir, il a un très bon sens du jeu. Par contre, c'est un joueur qui abandonne rapidement. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises dans le tournoi. Du moment que les Suédois, l'écart se creusait, Liesel, c'est un des joueurs qui s'effaçait. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange personnellement.
Ben, je vais t'en être avec toi. Moi aussi, ça m'a inquiété un peu. Fabian Liesel, c'est toujours été un attaquant que j'ai classé très haut dans mes listes. Dès le premier moment que je l'ai vu, je me suis dit, OK, c'est un espoir top 10, les gars. Par son sens, je me faisais penser beaucoup à Lucas Raymond, que j'adore également et de qui j'ai déjà parlé dans le passé. Mais plus je me suis mis à regarder de séquences de Fabian Liesel, puis plus je me suis mis à regarder ses statistiques également, parce que regarder ses statistiques, ce n'est pas très étincelant, même s'il jouait en Ligue élite de Suède, là, c'est toujours une ligue qui est difficile pour les jeunes de 17 ans. Mais son implication, là, contrairement à Raymond, que lui, l'implication, il n'y a aucun problème, c'est un compétiteur, toujours le visage devant, dans la face de l'adversaire. Là. Liesel, c'est pas ça du tout. Il n'y va pas devant le filet, a tendance à jouer plus en périphérie. Je suis d'accord avec toi, Modeso, ça m'a pas plu nécessairement. Puis, sans dire qu'il va baisser dans mes listes, mais je vais peut-être y penser à deux fois avant de me dire « OK, je pense qu'il faut que telle équipe prenne un Liesel ou peu importe. » Là, ça m'a inquiété un peu.
Ben, c'est parce que je reviens sur Edvinson. Lui, ça se corrige. Écoute, je veux pas que tu te portes autant en attaque. Je veux que parfois tu restes plus en défensive. Si tu y vas, je veux que tu reviennes. Parfait. Liesel ou Liesel? Liesel, Marty?
Liesel, hein, de Fabian Liesel. Ouais.
Fabian Liesel. Ben, Liesel, lui, je pense que ça va être plus difficile pour un entraîneur de non, abandonne pas, baisse pas les bras, continue à pousser, continue à générer quelque chose. On a besoin de toi, tu es un de nos bons joueurs. Ça, je trouve que c'est un trait de caractère qui en dit beaucoup sur un joueur. Et ça a été complètement le contraire pour son coéquipier Isaac Rosen. Lui, je l'ai trouvé vraiment bon et j'ai trouvé qu'il était encore meilleur à la fin du match parce que, bon, le Canada, on le sait, les Suédois les ont tenus, c'était 0-0 après une période, c'était très serré, c'était un match qui était très fermé, il n'y avait pas beaucoup de chances de marquer. Et quand les Canadiens ont mis la pédale au plancher, là, c'est devenu 5-1, 6-1, 7-1. La plupart des Suédois ont arrêté de jouer, ça n'a pas été le cas d'Isaac Rosen, et lui, je l'ai vraiment aimé, mais beaucoup, beaucoup.
Ouais, non, t'as raison. À l'inverse de Liesel, moi, Rosen, j'avais vu des séquences en Suède, puis son jeu n'avait vraiment pas plu, honnêtement. Là, oui, il avait un excellent coup de patin. Oui, il avait tendance à foncer au filet. Mais je ne sais pas. Je me demandais si ça se transposait dans la Ligue nationale. Si ça allait se transposer avec du jeu physique, avec des défenseurs de 6 pieds 4 pouces qui te repoussent sur le bord de la rampe. J'avais un petit peu peur. Mais là, j'ai vu davantage de facettes de jeu que j'ai adorées chez Isaac Rosen. Ben, premièrement, son lancer sur réception est très bon. Ça, je n'avais pas vraiment vu ça auparavant. Puis également, c'est ben, comme tu l'as dit, ça a été probablement un des seuls joueurs de la Suède qui s'est présenté lorsque le match devenait un peu plus difficile. Et un aspect qui m'avait dérangé également, c'est je trouve que défensivement, il se plaçait plutôt mal, ce qui est rare pour un Suédois. Là. Puis je me disais tout le temps, c'est un Suédois, il devrait être bon en défense. Là. Les Suédois ont tous un sens défensif à quelque part. Puis là, dans le tournoi, j'ai davantage aimé ce que j'ai vu. C'était davantage mieux, c'était beaucoup mieux placé en couverture défensive. Puis là, ça me donne un peu plus espoir. Peut-être que lui va monter un peu plus dans mes listes. Peut-être se rapprocher davantage d'un espoir de premier tour parce que, justement, au niveau du caractère, ça l'a mieux été, si tu veux.
Nick, je serais curieux de t'entendre. Nikita Shcherbakov, ça a été le quatrième meilleur pointeur du tournoi. C'est vraiment un joueur qui est ressorti du côté des Russes. Mais moi, j'ai peur que ça fasse un peu Alexander Radulov, Angelo Esposito avec les Remparts de Québec. Tu sais, parfois, deux joueurs qui produisent parce qu'ils jouent ensemble et qui mettent des points sur le board. Mais dans le fond, tu te rends compte qu'il y en a un des deux qui est clairement et nettement inférieur à l'autre. Penses-tu que ça va arriver avec Shcherbakov? Penses-tu qu'il a obtenu autant de points parce que Mishkov était là avec les Russes?
Ben, il faut que tu regardes les matchs. Je veux dire, si tu regardes les matchs, tu peux aller voir facilement s'il y a juste un gars qui fait du ski nautique sur le talent de l'autre. Là. Je veux dire, oui, les statistiques, tu peux te leurrer, mais je pense que quand tu regardes les matchs, ça ment pas. Si tu regardes le niveau d'implication, si tu regardes est-ce que le joueur crée des chances de marquer lui-même, est-ce que le joueur a son propre talent offensif, est-ce qu'il fait ses manœuvres qui sont propres à lui. Ben, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de Gibrica. J'ai pas vu quelqu'un qui faisait juste surfer sur le talent de quelqu'un d'autre. Là.
Moi, c'est un des joueurs que j'aime beaucoup dans ce repêchage-là. Tu demandais est-ce qu'il se base sur le travail de l'autre. Ben, je pense que c'est le contraire. Mishkov se base sur le travail de Chibikov. Ben, n'arrête jamais. Toujours en train de mettre de la pression. Très bon dans les deux sens de la patinoire. Au niveau de la couverture défensive, se débrouille assez bien. Puis les gars, je l'ai vu à plusieurs niveaux. Je l'ai même vu jouer dans la KHL là, avec le Scott Saint-Pétersbourg. Là. Puis même dans la KHL, il n'apportait pas nécessairement le jeu offensif, parce que c'est un calibre quand même assez élevé, là. Mais il était capable de se démarquer au niveau de son effort, était constamment impliqué, puis défensivement se débrouillait assez bien. Non, honnêtement, j'ai adoré ce que j'ai vu, ça conforte pas mal mon opinion par rapport à Chibikov.
Et souvent, on oublie là, que ça peut sourire à l'un comme ça peut sourire à l'autre. Hein. On avait souvent parlé de la chimie entre Jack Hughes et Cole Caulfield. Ben, aujourd'hui, Jack Hughes s'ennuie peut-être également de Cole Caulfield. Hein. Ça fonctionne des deux côtés. Hein.
C'est clair. Non, c'est clair que souvent, les paires là, qui fonctionnent très bien, juniors, je pense à Nathan McKinnon, à Jonathan Drouin, ça se peut que les deux obtiennent du succès de façon individuelle en Ligue nationale, mais ça se peut que les deux aussi s'ennuient un de l'autre. Et là, exactement. Je ne vais pas faire de mauvais comparatif, mais...
Je pense que pour un joueur, ça prend surtout un autre élément complémentaire qui va t'aider. Dans le cas de Jack Hughes, ben, s'il n'y a pas de marqueur, ça va être difficile. Il a bien beau faire les plus belles passes du monde. Si les attaquants n'arrêtent pas de tirer ça dans les baies vitrées, ben
mais
ça va.
J'en ai vu des matchs des Devils. Jack Hughes fait des passes fantastiques à chaque match. Là. Mais il n'y a pas tout le temps le joueur avec qui. Le joueur avec qui il joue, c'est pas tout le temps le gars qui va finir ses jeux.
Il n'y a pas de gros scoreur non plus avec les Devils. Ben, il n'y a pas de joueur que sa qualité première, c'est marquer des buts.
C'est pourquoi j'ai quand même hâte de voir Alexander Holtz potentiellement jouer avec Jack Hughes. Là. C'en est un marqueur, c'en est
ouais,
un
qui s'assiste en qualité. C'est vraiment intéressant. Ouais, ça va être exact. Vraiment intéressant.
Et Jack Hughes va être capable, je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner, mais je suis seulement curieux de voir qu'est-ce
ouais,
que
ben, c'est ça. Puis la chimie, hein, c'est, je veux dire, c'est pas de la science nucléaire dans le sens que ça prend pas un génie pour savoir qui va avoir une chimie avec qui, parce qu'en fait, il n'y a personne qui sait si ça va fonctionner avant de mettre les deux ensemble. T'sais, même les entraîneurs, quand ils vont faire leur trio, là, ils vont faire des essais, c'est de l'essai-erreur. Mais je veux dire, tu ne peux pas prédire que tel joueur va fonctionner avec tel joueur tant que tu ne vois pas sur la patinoire. C'est une expérimentation, c'est une expérience que tu vas faire. Non, et après, tu vois si ça fonctionne.
C'est clair, mais ça reste que leur trait de caractère. Tantôt, Marky parlait d'un talent exceptionnel.
Oui, oui.
D'un côté, c'est un passeur. De l'autre côté, c'est un sniper.
Ben oui, mais écoute...
À la base... En prémisse, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça va fonctionner? On le verra. Mais c'est un excellent point, Marky, ouais. Parce que c'est vrai que les Devils n'ont pas de marqueur naturel. Il y a peut-être Paul Mary, là, mais à part ça, là, avec Holtz, qui va éventuellement arriver dans la Ligue nationale, ça va être à surveiller pour plusieurs
années. L'affaire que je veux dire, c'est oui, ça a peut-être du sens, là, mais Phil Kessel, Sidney Crosby, ça ne fonctionnait pas du tout. J'entends Drouin, Max Pacioretty, ça n'a jamais fonctionné non plus.
T'sais, non, je suis d'accord, je suis d'accord.
Mettre un passeur avec un tireur, ça ne fonctionne pas tout le temps. Il y a plus que ça. Est-ce que c'est un joueur qui est linéaire? Est-ce que c'est quoi ses tendances de jeu? Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte quand on veut évaluer la chimie que ben, parfois, tu dois quasiment oublier de tomber dans la suranalyse et juste faire des essais juste attendre que ça fonctionne. Là.
Mais je parle pas nécessairement que ça va fonctionner à 100%. Je dis juste que pour une fois, Jack Hughes va jouer avec un tireur. C'est plus
ça. Ah oui, ça va l'aider. Là. Quelqu'un qui sait trouver les espaces libres et qui a un bon tir.
Ça s'applique pour Cole Caulfield également. Il y a un excellent lancé, Cole Caulfield. Est-ce qu'il y a un joueur chez les Canadiens de Montréal qui va être capable de lui distribuer la rondelle présentement? Je continue à penser que Jesperi Kotkaniemi serait le bon candidat.
Ouais.
Mais j'en vois pas nécessairement.
Ben, Nick Suzuki.
Ben, c'est drôle parce que je trouve que je trouve que les matchs que Caulfield a été le meilleur à 5 contre 5, là, précisons-le, là, vraiment à 5 contre 5, c'est quand il jouait avec Evans et Lekkonen. Et c'est pas des joueurs nécessairement qui sont réputés pour leur offensive. Mais c'est à ce moment-là que Caulfield Je ne sais pas pourquoi,
ces
mais
ces gars-là étaient les premiers ses rondelles. Jake Evans et Arthur Ekonen étaient tellement affamés, là, sautaient sur n'importe quelle rondelle libre. Après, ça donnait un certain temps de possession à Caulfield et ça gardait la rondelle en zone offensive. Et quand la rondelle est en zone offensive, ben, c'est là que Cole Caulfield est plus dangereux parce que c'est là qu'il peut se faire oublier, c'est là qu'il peut se faufiler. Alors moi, je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, au-delà du fait de lui donner le typique fabricant de jeu.
Non, t'as un bon point, Nick. Puis c'est ça, Cole Caulfield, il y a une facette de son jeu qui ne ressort pratiquement pas, puis c'est correct. Mais c'est pas le joueur qui va nécessairement aller chercher les rondelles dans les coins. Il est toujours un peu plus en support. Mais il n'y a pas de problème parce que Jake Evans et Arthur Lekonen, une de leurs principales qualités, c'est justement d'aller dans les fonds.
Oui, il mange les bandes.
Avec la rondelle. Donc par la suite, Caulfield peut seulement se placer, arriver en support et par la suite, ça permet des relances ou
ben, simplement vois, des contre-marques. Puis je veux faire un aparté parce qu'on ne partira pas non plus sur le Canadien de Montréal pendant 20 minutes. Là, mais de le mettre avec Corey Perry et Eric Staal, qui là, c'est deux vétérans qui ont moins de patins, donc plus difficile d'aller chercher les rondelles en fond de territoire, ça fait une attaque qui est moins soutenue. Parce que là, il n'y a aucun des trois joueurs qui va se salir le nez dans le fond de la zone. Fait que je sais pas ce pairing-là. Puis je veux dire, je comprends que Tatar revient au jeu, Gallagher va revenir, puis ça fait que les attaquants, il y en a de moins en moins, puis Caulfield descend, puis c'est tout à fait normal. Mais je questionne un peu là, cette décision-là de mettre Caulfield avec Perry et Staal. Mais ça, c'est ma propre opinion. Mm-hmm. Je vous ramène au repêchage de 2018. Joe Veleno était là. La plupart des experts le voyaient 15e, 20e. Finalement, il avait glissé jusqu'au 30e rang, repêché par les Red Wings de Détroit. Il a marqué son premier but cette semaine contre les Blue Jackets de Columbus en avantage numérique sur une super belle passe de Vrana. Veleno qui enfin réussit à toucher la cible dans la Ligue nationale à son 5e match. Les gars, c'est un joueur qui avait quand même mérité du statut de joueur exceptionnel. Est-ce que on s'attend à ce qu'il soit en mesure d'atteindre ces attentes-là ou ça va devenir un peu plus un joueur, un bon joueur, mais sans?
Moi, je le vois comme un bon joueur qui aura des bonnes habitudes sur la patinoire, qui va être bon dans les deux sens de la patinoire et qui va peut-être faire une cinquantaine de points. Je pense pas qu'il est certainement pas dépourvu de talent. Je trouve qu'il y a des très belles habiletés avec la rondelle. Il y a une bonne vision du jeu. Il y a une bonne compréhension du jeu. Mais et d'ailleurs, j'adore sa façon de changer de direction avec la rondelle. Là. C'est un trait que j'aime beaucoup chez Veleno. Mais je pense pas qu'on va avoir l'espèce d'attaquant ultra dynamique, là, ben, le typique exceptionnel. Là. Non, on n'aura pas ça.
Non, je suis d'accord avec Nick. C'est exactement ça, honnêtement. J'ai regardé son match, le match de son premier but, là. Défensivement, il est pratiquement impeccable. Il est toujours en train d'arriver en support à ses coéquipiers pour ressortir avec la rondelle. Il y a un jeu, entre autres. Troy Stetcher était derrière le filet, a perdu la rondelle, mais parce que Veleno était très près de son défenseur, il a permis de récupérer la rondelle rapidement et même d'effectuer une relance. Ça, c'est une très, très belle facette dans le jeu de Joseph Veleno. La seule chose, mais j'ai tendance à penser comme Nick, là, je pense que ça va être un bon joueur d'utilité qui va être très bon pour assumer des missions défensives, même s'il est capable de jouer en avantage numérique. Là, son but a été marqué en avantage numérique. Mais c'est là que c'est bizarre. Là. C'est pas parce que tu es un joueur qui est créatif et qui a des mains, parce que Joseph Veleno a d'excellentes mains. C'est pas parce que tu as ça que tu as nécessairement le plus grand sens du hockey. Et dans son cas, du moins sur le point de vue offensif, là,
ouais, offensivement,
que
ouais.
Ça manque un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'il est passé d'un joueur exceptionnel au niveau junior ouais. Qui était capable de produire.
Ouais, ben, je sais ce que tu veux dire, parce que si le joueur est libre, il va le repérer. Mais c'est pas le plus grand magicien en zone offensive. Là. Il va pas créer un jeu qui n'est pas là à la base.
Exact, mais c'est de voir le jeu se développer 3 secondes en avance. Il y a des joueurs ouais. Qui ne sont pas capables. Il y a des joueurs qui sont capables, honnêtement, ça c'est inné, ça ne s'apprend pas vraiment. Mm-hmm. Ça se travaille, mais ça ne s'apprend pas vraiment. Et dans le cas de Veleno, c'est un peu ça. Et d'autant plus que son coup de patin est correct, mais c'est son explosion. Il va falloir qu'il travaille un peu plus sur son explosion. Et c'est ces petites facettes-là, moi, qui me font dire que ben, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas un joueur qui va produire au niveau offensif comme des Lucas Raymond, comme des Leland Larkin, comme des... Et Jonathan Berggren, qui est également un très bel espoir du côté exactement. Des Red Wings.
Personnellement, moi, je l'aimais beaucoup à son année de repêchage et je trouvais qu'il avait été repêché beaucoup trop tard. Mais finalement, je commence à me réconcilier au fait qu'il a été sélectionné au 30e rang. Puis je pense qu'avec le recul, on va probablement se dire que c'était le bon rang de sélection pour Joe Vellini.
Et c'était
un bon choix dans les circonstances au 30e rang.
Il avait passé très près d'atterrir. Ben, je ne sais pas si le Canadien l'aurait sélectionné, là, mais 2018, c'est l'année que le Canadien repêchait 3e. Donc, Vellino, en étant repêché 30e, le Canadien a repêché Jesse Lonen 5 rangs plus tard, donc il y avait quand même une certaine chance là, que Vellino tombe jusqu'au rang du Canadien, et je m'en souviens très bien, là, c'est moi qui faisais le repêchage, et la plupart des gens espéraient que Vellino glisse encore un peu plus, et malheureusement, les Red Wings l'ont sélectionné.
Moi le premier, d'ailleurs.
Oh, oui. Je te pose la question, Anthony, et puis je connais déjà la réponse, mais je veux vous faire partager à nos auditeurs le fait de le voir 30e, est-ce que ça t'avait dérangé un peu?
Ben, c'est parce qu'il faut expliquer comment ça fonctionne, c'est que le repêchage, le reportage du repêchage, d'un point de vue technique, il faut le produire immédiatement une fois que le repêchage se termine. Donc, moi, j'avais déjà enregistré le fait que Vellino n'avait pas été sélectionné en première ronde. Donc là, il faut que je retourne enregistrer cette partie, que je remonte cette partie-là. Donc, ça avait couru un petit peu rapidement là au 10e étage de TVA Sport.
Messieurs, ça a été un excellent reportage. Ne t'inquiète pas, Anthony. Ça
ben, merci, merci, Marty. J'apprécie les fleurs. je pense qu'on doit aussi lancer des fleurs à l'organisation du Rocket de Laval cette année. C'est officiel. Ils ont remporté le titre de la division canadienne. Bon, malheureusement, il n'y aura pas de séries éliminatoires, donc ça ne change pas grand-chose, mais je pense que c'est important de le souligner. Joël Bouchard a fait un excellent travail avec ces joueurs-là cette année. On le sait que ça a été une saison spécial. Il y a des joueurs qui étaient censés jouer WHL qui ont finalement joué avec le Rocket. Je pense à Michak, je pense à Goulet. Il y a plein de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a eu des blessures. Il y avait une certaine rotation qu'on devait faire. Et à la fin, au moment où on se parle, au moment où on enregistre ce podcast, le Rocket a une fiche de 22 victoires, 6 défaites et 3 en prolongation de tir de barrage. Donc, je lève mon chapeau à l'organisation du Rocket. Ça fait du bien. Ça fait longtemps que le club d'école du Canadien de Montréal performe. Rappelons-nous, les années à Saint-John, c'était beaucoup plus laborieux.
Les années Sylvain Lefebvre, là, ça avait été vraiment difficile. Et surtout, du point de vue du développement des joueurs, ça, c'est là que le bas blessait. Et je veux vous parler, les gars. J'ai vu récemment un match Rocket contre les Marlies. C'est un match que le Rocket a perdu en prolongation. Je pense que c'était sur un jeu de Nick Pétan, là, si je me souviens bien. Mais ce que j'ai retenu vraiment, là, c'est que le Rocket avait poivré Joseph Woll de plus de 50 tirs. Il était partout sur la patinoire, mais le Rocket devait composer avec plusieurs absents. Donc, il n'y avait pas beaucoup de talent dans la formation du Rocket ce soir-là, mais la structure de jeu était tellement bonne que le Rocket dominait outrageusement son adversaire quand même. Et c'était beau à voir cette structure-là de col bleu de Joël Bouchard, de tout le temps être les premiers sur la rondelle. Et il y avait certains schémas de jeu que je trouvais quand même imaginatifs en zone offensive qui simplifiaient la vie. C'était pas nécessairement compliqué, mais je trouve qu'on avait tout le temps une option, on avait tout le temps quelque chose à faire avec la rondelle. Et l'espèce de... Tu sais, on l'a vu souvent là, quand Duchamp est arrivé avec les Canadiens, l'espèce de joueur de l'attaquant qui remonte en haut de la zone pour fournir une option au défenseur là, qui va se positionner un peu entre les défenseurs dans le haut de l'enclave. Là. On le voit souvent avec le Rocket. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kotkaniemi disait que ça ressemblait au système qu'on voyait à Laval. Mais il y avait toutes sortes de petites options même là, de passes au porteur qu'on retrouvait qui simplifiaient la vie à des joueurs qui sont plus ou moins talentueux. Et j'aimais tellement ça voir ça. Un club qui est incisif de même, qui n'attend pas l'adversaire, mais qui l'attaque de plein fouet.
Non, puis Joël Bouchard, honnêtement, cette année également, avait des joueurs vraiment faits pour le style d'entraîneur qu'il est. Tous les joueurs, là, même ceux qui ont déjà goûté à la nage des Jordan Wheel ou des Joseph Blandisi, ce sont tous des joueurs qui ont joué dans la LNH parce que c'était des joueurs de caractère qui travaillaient fort. Ben, c'était parfait pour lui, il pouvait montrer la voie aux plus jeunes. Et là, par la suite, tu ajoutais des Joel Teasdale, des Raphaël Harvey Pinard, même des joueurs plus marginaux comme Lucchesi ou...
Lucchini, d'ailleurs, qui a dû frapper 5 poteaux dans cette rencontre-là. Je me sentais tellement mal pour lui. Là. Écoute, c'était épouvantable, les gars.
Est-ce que c'est dans ce match-là? Je pense que c'est dans le match contre Belleville. Là, il a marqué un but incroyable, là, justement, avec une feinte entre ses jambes. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est des joueurs qui sont parfaits pour Joël Bouchard. Donc, ça lui permettait de mettre de l'échec avant, de mettre de la pression sur le gardien de but. Il ne faut pas se surprendre, si vous connaissez moindrement Joël Bouchard de ses années avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, c'était des équipes exactement semblables, avec des joueurs pas nécessairement les plus talentueux, mais des joueurs super travaillants.
Exactement.
Ils avaient été les foreurs de Val-d'Or lors d'une des années éliminatoires. Les Foreurs avaient des joueurs comme Anthony Richard, Nicolas Aubé-Cubel, Julien Gauthier, puis l'Armada avait fait une bouchée des Foreurs. C'est simple, c'est du typique Joël Bouchard.
Mais les Foreurs les avaient tellement sous-estimés. D'ailleurs, il y a une rumeur qui court que les Foreurs avaient pris un pari entre eux pour savoir qui allait marquer le plus de buts, puis on faisait des poules et on riait un peu de l'Armada. Et c'est exactement ça qui arrive quand on prend un adversaire à la légère, surtout une équipe qui travaille. Donc, on connaît la suite, là, l'Armada qui l'avait emporté. Il ne reste que 5 petites parties là, au Rocket de Laval cette saison. Les 5 seront contre les Marlies et ce sera...
Je suis curieux d'entendre Renick sur une chose, par contre, parce que je me suis dit, je m'attardais un peu à Josh Brook. Je sais que tu adores Josh Brook. Je m'étais dit, je vais tenter de le surveiller un petit peu. Je me suis mis à regarder. J'ai regardé d'ailleurs le match contre les Marlies que tu me parles pour la simple et bonne raison que j'avais commencé à voir d'abord le match contre Belleville. Première période, tout va bien, il joue en défense, il n'y a aucun problème. Puis, en deuxième période, Josh Brook était maintenant à l'aile droite. Ouais. Est-ce que toi, tu es fan de ça? J'ai un
non.
peu curieux.
Puis, non, pas du tout. Honnêtement, ben, il s'est bien débrouillé.
Mais c'est ça, il était super bon, il apportait de l'échec avant. C'était le joueur le plus rapide sur la patinoire et il ressortait souvent avec la rondelle. Ça, il y a même, je pense que c'est sur le but de Lucchini, justement. Là. Il a quand même trouvé le moyen d'amasser une aide. Il m'a impressionné, mais ben, de là, je
non, je ne laisserai pas là. Puis d'ailleurs, c'est même pas proche. C'est le défenseur qui était le plus talentueux à l'attaque chez le Rocket cette saison. Mais vois-tu, ça m'a titillé un peu cette décision-là, Marley, juste à temps que j'obtienne les explications de Joël Bouchard qui disait finalement, écoute, il s'est retrouvé à l'attaque parce que, ben franchement, c'était notre défenseur avec le plus de talent offensif et ça prenait un gars à l'attaque. C'est ça qu'on sentait durant le match. Mais c'est pas parce qu'il ne se débrouille pas bien dans son territoire cette saison. Donc, j'ai aimé la précision parce que, pour moi, Josh Brook, c'est avant tout un défenseur. C'est un défenseur qui est excellent pour se porter à l'attaque. Et c'est un défenseur que j'aimerais vraiment voir avec le Canadien l'an prochain. J'aime vraiment son développement. Première saison, très peu convaincante chez les professionnels. Mais il a tourné coin, là, Josh Brook.
Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne m'en cache pas, je n'ai jamais été un fan de Josh Brook nécessairement. Mm-hmm. Je pensais que c'était un espoir de deuxième tour, mais ce n'était pas mon préféré. J'ai toujours détesté un peu sa propension à causer des revirements par ses premières passes. J'ai toujours trouvé que c'était laborieux à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec Nick, les derniers matchs que j'ai regardés de lui, là, c'était bien meilleur, beaucoup moins de revirements, puis son jeu offensif restait très bon. Une très bonne anticipation pour couper des jeux
très
adverses.
Proactif, hein, très proactif. Il recule pas en attendant l'attaquant. Là. Il va vraiment prendre les choses en main dans sa couverture défensive.
Exactement. Puis avec son coup de patin qui est très intéressant, tu avais soulevé le point qu'il pourrait jouer à Montréal, je pense, il y a environ un mois. Puis j'étais pas d'accord à l'époque, mais là, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Mm-hmm. Je serais pas surpris de voir Josh Brook obtenir des matchs à Montréal et assez rapidement l'an prochain. Je serais pas surpris.
Mm-hmm. Ouais, moi aussi.
En terminant, Marty, j'observe derrière toi sur ton mur une superbe fresque. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus longuement là? Quelque chose qu'un de tes amis t'a fait, je pense.
Ben oui, mais on a un petit cadeau, c'est ça, juste en arrière ici. Là, une belle petite affiche de la relève. C'est très, très bien. C'est été gracieusement offert par un de mes très, très bons amis. Là, on en a donné un peu à tout le monde. Là,
j'en ai une, moi aussi. Là, c'est très cool.
J'en ai même pas une, moi. C'est le fun.
Non, mais j'en ai une ici. Là, l'écran n'est pas grosse, là, mais en tout cas, j'ai ça ici là, que je pourrais te donner, Nick.
Hey, vous
mais,
me donnez ça au bureau de main, les gars. Là, j'en veux une, moi.
je vais donner celle que je viens de montrer à l'écran, là. Non, c'est un de mes très bons amis, Gabriel Normandin, qui a une imprimante 3D qui fait de l'excellent travail, là. A obtenu quelques contrats parfois pour des figurines fantastiques, etc. Puis ben, il nous a confectionné ces magnifiques affiches-là, Podcast La Relève, c'est très apprécié.
On remercie, c'est Gabriel, Marty?
Gabriel, oui, tout à fait.
On remercie Gabriel, merci beaucoup, très apprécié.
Donc, merci beaucoup, Gabriel. Merci à vous à la maison. On le sait, vous êtes très nombreux qui nous suivent, qui nous envoient des questions. C'est vraiment apprécié, honnêtement. C'est pour ça qu'on le fait. Ça nous fait chaud au cœur de vous lire. Et on aime ça, partager nos connaissances avec vous. Donc, n'hésitez pas à continuer de nous suivre sur nos pages Facebook et notre page YouTube. En mon nom personnel et ensuite de Nicolas Cloutier et de Martin Thériault, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Salut tout le monde.